France Culture.
Avec moi dans ce studio, ceux qui ont lu Pierre Benetti, critique littéraire au journal en ligne. En attendant, Nado, bonjour.
Bonjour Marie.
Antoine Léris, journaliste au magazine Lire, bonjour.
Bonjour Marie.
Et bienvenue à tous les deux.
C'est le printemps. Tu questionnes Jean sur la couleur politique des correcteurs et la forte présence de l'extrême gauche dans le métier, surtout pour les générations qui précèdent la tienne. Il semble y avoir là un paradoxe. Corriger, surtout dans la presse, ne signifie-t-il pas agir en police de la langue ? S'assurer que les règles, même les plus absurdes et les moins intuitives, soient tout à fait respectées et sévir lorsqu'elles ne le sont pas. Ne peut-on pas opposer à cela la poésie et sa nature profondément transgressive ? Corriger, autrement dit remettre dans le droit chemin, n'est-il pas le geste conservateur par excellence, à l'opposé de toute idée de progressisme, de transgression, de renversement, n'osons pas le mot révolution, un geste qui te met parfois mal à l'aise, précisément pour ces raisons? Il est bien dit du métier, encore aujourd'hui, qu'il consiste à veiller jalousement à la pureté de la langue et de sa typographie.
On vient d'entendre un extrait du quatrième roman d'Hélène Frédéric, Lézarde, paru chez Vertical. On l'aura compris, ce livre est en grande partie consacré à ce métier qu'on dit souvent de l'ombre, les correcteurs de presse. C'est un métier qu'exerce l'autrice pour pouvoir écrire. La Lézarde, qui lui donne son titre, est d'ailleurs un terme de typographie. Et avec elle, on découvre un monde souvent ancré à l'extrême gauche, libertaire, qui a abrité d'ailleurs de grandes figures de l'anarchisme, par exemple. Mais ce texte est aussi un hommage au père de l'autrice, rebelle, lui aussi, à sa façon. On commence par un avis en quelques mots, Pierre Benetti.
Ah, c'est un très beau livre, j'ai trouvé, qui justement ne sépare pas ces différents métiers, les différents savoirs intellectuels et plus manuels ou techniques. Et c'est un livre qui permet de rendre ses lettres de noblesse à un à côté de l'écriture, hein, la correction, mais aussi au parcours qu'on va peut-être évoquer de l'autrice. Et elle fait une histoire passionnante de ces liens de la correction avec la pensée libertaire que moi, pour ma part, j'ai complètement découvert. Et puis finalement, cet itinéraire, moi, ce qui m'a beaucoup touché, c'est que c'est l'itinéraire d'une écrivaine et correctrice, du coup, qui est entre deux et ça se loge aussi dans sa langue.
Antoine Léris.
Moi, je vais faire beaucoup plus court, mais je pense aussi que c'est un livre indispensable. En gros, au temps de l'intelligence artificielle, voilà un éloge magnifique de l'obsolescence de l'homme. Tous ces temps perdus, toutes ces hésitations, tous ces doutes, tout ce temps qu'on prend à l'efficacité, à la productivité, est en fait peut-être un temps essentiel à l'être humain.
Alors, Pierre Benetti, vous disiez, c'est une histoire entre deux chaises, l'autrice entre deux chaises.
Ben oui, mais c'est la place aussi des correcteurs et des correctrices eux-mêmes qui se trouvent à la fois dedans et dehors. Elle joue beaucoup tout au long du texte sur ses expressions. Entre deux chaises, c'est son expression pour parler de son sentiment à la fois dans la vie, dans la langue. Moi, j'ai beaucoup aimé ça, c'est-à-dire que c'est pas un livre qui dirait que c'est formidable les correcteurs parce qu'ils seraient plus contestataires que les autres. C'est pas aussi catégorique. C'est un livre qui est entre deux chaises lui-même parce que c'est un livre qui cherche toujours une bonne place vis-à-vis de l'écriture, vis-à-vis de ce mépris qu'on peut avoir pour les petites mains, avec beaucoup de guillemets. Elle montre bien que, en fait, les petites mains, elles sont indispensables à la création de ce livre, et on n'est pas obligé d'ailleurs de les appeler des petites mains. Et en fait, ce entre-deux-chaises, ça se passe aussi à travers l'instillation, enfin, je sais pas comment dire ça, de tout un argot, de toute une langue. Des correcteurs, ils ont une langue. Et alors, c'est formidable parce qu'on apprend quantité de mots et de choses, d'ailleurs. Donc, par exemple, le castin, qui est la pièce des rédactions où on fait la correction, la morasse, qui est l'épreuve, etc., etc. D'ailleurs, c'est un langage qui perdure dans la presse. Mais
faire
là, il y a
perruque.
Tout un... Faire la perruque.
Ça veut dire
travailler.
Quoi, faire la perruque?
Alors, justement, faire la perruque, ça veut dire travailler pour plusieurs...
journaux à la fois.
Exactement, ouais.
Et je trouve qu'il y a un effet de cette langue et d'une recherche de l'argot dans son écriture qui fait que c'est pas une langue bizarre, mais il y a une forme de renouvellement par ce passage par l'argot. Quoi.
Alors, ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a plusieurs textes. Hein. Comment il est construit, ce livre, hein?
En fait, il y a, disons, trois textes qui s'entrelacent. Un premier texte sur son père qui, dans une cabane au Canada, hein, ça s'invente pas, pardon, ça n'est pas un jeu de mots de ma part, mais qui... Alors, c'est génial parce qu'il répare des outils, mais ne vous imaginez pas qu'il répare des vieilles charrues dans un siècle passé lointain. Non, non, il répare des outils électriques à l'époque où on les réparait encore. Et elle raconte ce geste-là qui est formidable quand elle l'écrit. Avec le vernis, il faut passer le petit moteur électrique au four pour rendre l'outil encore plus performant que quand il l'était, quand il était neuf. Et donc, il y a cette première partie-là. Puis, il y a sa deuxième partie, elle, son destin depuis son rôle de libraire. C'est comme ça qu'elle commence, hein, à Montréal, quand elle déménage de sa campagne pour aller à Montréal. Puis, son départ à Paris, où elle trouve son poste de correctrice, qui est, et ça, j'ai trouvé ça génial, c'est un collègue qui lui dit, c'est le travail pour ceux qui refusent l'idée même de travail. Ça ne veut pas dire qu'il ne travaille pas. Au contraire, il travaille beaucoup. Et d'ailleurs, elle se définit, c'est ce qu'on disait sur le entre-deux-chaises, comme moitié ouvrière, moitié femme de lettres. Et ça, je trouve que c'est hyper important parce que ça raconte vraiment la place qu'elle prend, la place depuis laquelle elle regarde l'écriture. Elle se regarde écrire, elle nous raconte comment elle écrit, elle nous raconte son rapport aux mots. Et ce rapport-là est très beau parce qu'il est à la fois un rapport de respect, puisqu'elle doit aussi gérer les mots des autres, et ça, c'est une très lourde responsabilité. Et puis, comment, dans l'interstice, elle arrive elle-même à trouver ses mots. Et puis ensuite, le dernier texte, c'est la dimension politique que vous le disiez, le fait que, effectivement, le métier de correcteur est un métier où beaucoup de personnalités d'extrême-gauche, ou en tout cas, qui a beaucoup de personnes engagées très à gauche, qui y ont travaillé. Mmh.
Et aussi un métier... Pierre Benetti, allons-y là-dessus.
Oui, un métier aussi très structuré, qui a beaucoup lutté, enfin, il y a eu des grandes luttes sociales de la part des correcteurs. Il y a eu des choses qui ont été arrachées.
Oui, les conventions collectives.
Voilà. Et donc, dans un milieu, la presse, qui s'est fait complètement déstructurer, dérégulariser, etc., c'est vrai qu'on a l'impression, en lisant ce livre, ça donne une sorte de bouffée un peu d'espoir ou de conviction que, bon, finalement, il y a des choses qui tiennent. À la fin, le livre est très, très beau, parce que il ne faudrait pas penser que c'est simplement une variation sur le thème de la correction et puis ce que je fais dans ma vie, etc., par rapport à côté d'écrire. Il y a vraiment une progression autobiographique qui amène à comprendre que finalement Hélène Frédéric, elle trouve une place parmi ses correctrices et correcteurs. Et notamment, il y a cette scène de réunion syndicale où c'est un petit peu impressionnant de faire face à des gens, voilà, très très syndiqués, très mobilisés depuis longtemps, alors que c'est plutôt, on comprend que c'est quelqu'un qui est un peu à côté elle-même de ce métier. Et donc dans ce monde où le métier est dégradé de plus en plus, parce qu'il y a énormément, par exemple, d'auto-entrepreneurs, il faut le savoir, parmi les correcteurs. Avec la suppression des postes, le travail au rabais. Petite précision, on s'aperçoit aussi que la féminisation de la profession, elle va avec la précarisation du
comme
métier.
Comme toujours.
Comme toujours. finalement, elle réhabilite quelque chose qui est de l'ordre, par exemple, de l'autodidaxie. Donc, le fait d'être autodidacte, c'est aussi un des traits de caractère, à la fois du père dont elle raconte la vie, et des correcteurs. Et donc, à travers ça, c'est vrai qu'il y a, sans que ça devienne un livre, disons, je sais pas comment dire, un peu folklorique ou qui dirait que tous les correcteurs étaient des sortes de héros de l'industrie du livre, on découvre une multitude de biographies. Ouais. Alors par exemple Victor Serge, je savais absolument pas qu'il avait le révolutionnaire Victor Serge avait travaillé là, Libertad aussi, des femmes notamment Rirette, May Picret, enfin vraiment qui, je sais pas, mais
qui était dans la bande à Bono,
Bande à Bono, Antoine Doinel dans les films de Truffaut, on l'a oublié, et donc il y a tout un micro-monde qui se développe devant nous, qui est assez formidable à découvrir.
Ce qui est très beau, c'est que justement ce propos politique, il est pas asséné ou il est pas démontré. En fait, elle raconte son métier de l'intérieur. Elle raconte les personnes qui, elles aussi, ont exercé ce métier-là. Et ça nous donne effectivement une toile de compréhension, disons une sorte de décor, mais elle impose jamais aucune idée. Et je trouve que la dimension politique du livre, justement, s'en échappe presque, s'en émane. C'est presque comme une odeur. C'est quelque chose qui n'est pas dit directement, qui n'est pas frontal. Et cette dimension-là, et qui est assez formidable dans l'époque, c'est vraiment cet éloge de l'inutile ou du temps perdu. C'est ce que je disais tout à l'heure et que je trouve vraiment magnifique dans ce livre-là, parce qu'elle raconte la correction comme étant une forme de doute permanent. C'est-à-dire qu'il y a des débats entre correcteurs pour savoir comment... où elle fait tout un paragraphe sur où mettre la virgule pour qu'elle ait vraiment du sens. Il y a des choses comme ça qui sont assez merveilleuses et qui disent quelque chose de ce métier-là, au-delà même de ce qu'elle raconte. Ensuite, moi, si vous voulez avoir une idée, une impression de l'écriture d'Hélène Frédéric, moi, je trouve que le titre le dit très bien. Parce que donc, ça s'appelle Lézarde, mais en fait, ce qu'elle nous explique dès le début du livre, c'est que les lézardes, ce sont En gros, quand vous faites une page et que les espaces se suivent d'une ligne à l'autre, ça peut créer des sortes visuellement de lézards dans le texte qui sont ensuite modifiés au moment de la composition pour ne pas qu'elles puissent apparaître. Et je trouve qu'en nous, en intitulant ce livre-là de lézards, il y a quelque chose où, enfin, si on connaît un peu Leonard Cohen, ce qui paraît, c'est par les lézards que passe la lumière, mais je trouve qu'il y a quelque chose de très lumineux qui passe au travers de cette écriture-là.
Et pour revenir, on l'a bien entendu dans l'extrait sur cette faune, quelque part, des correcteurs qu'on connaît mal. C'est amusant, cette idée que les correcteurs, qui sont souvent des libertaires, des anarchistes, se retrouvent à mettre de l'ordre dans un texte.
À être les policiers de la langue.
Mais voilà. Ça, c'est très intéressant, parce que c'est une liberté sous contrainte. C'est-à-dire que c'est pas une liberté déliée des réalités du monde du travail et des réalités très, très concrètes de la presse. Enfin, c'est-à-dire que c'est un milieu où on est face à des énormes questions techniques. Et d'ailleurs, la transformation numérique de la presse n'y change rien, parce qu'on continue d'être devant quand même des questions techniques qu'il faut bien prendre à bras le corps. Et donc, c'est un sentiment de liberté que donne le livre et de lucidité aussi sur une pratique d'un métier, une pratique de la langue qui est encadrée. Et ça ne veut pas dire non plus qu'il faut être rigide, parce que la langue, elle évolue. Et donc, le travail des correcteurs, des correcteuristes d'ailleurs, je ne sais pas si ce que Hélène Frédéric pense de la transformation du mot. Voilà, leur travail évolue aussi en fonction de la langue. Donc il y a aussi beaucoup d'humour dans ce livre sur toute ce monde libertaire et en même temps complètement qui affirme une puissance de la grammaire, de l'orthographe et des règles. Donc c'est très touchant aussi.
Et comme on parle de langue, Antoine Léris, peut-être terminer là-dessus sur la langue de l'autrice.
Alors, il y a quelque chose qui, au départ, j'ai l'impression, quand on ouvre le livre, nous donne le sentiment qu'on va avoir une série d'impressions, de choses
de rêveries
achevées.
Aussi,
exactement.
Oui. Parce que ce sont de courts paragraphes, c'est ça.
Ce sont de très courts paragraphes, on passe très vite d'un sujet à un autre. Et en fait, au fur et à mesure de la lecture, j'ai l'impression que le style, le texte, les mots prennent de l'épaisseur, qu'on commence à comprendre très vite là où elle veut nous emmener et on se laisse porter. Il y a quelque chose de très brillant dans cette langue-là, mis à part évidemment le problème principal de ce livre, c'est qu'on le lit en espérant une coquille, en guettant au bout d'un moment une faute. Non, mais c'est vrai, on peut pas s'en empêcher. Je crois qu'il n'y en a pas, mais je suis pas correcteur en même temps. Et il y a quelque chose aussi de très bien que je trouve, c'est qu'elle raconte la précarité du métier et qui est, je pense, la précarité qu'on sent aussi dans son écriture, où on sent que ça pourrait tomber, on est au bord du fil et que finalement elle arrive à tenir le chemin.
Un dernier mot.
Je suis tout à fait d'accord. Il y a quelque chose qui aussi relève de, on n'a pas eu le temps d'en parler, mais de l'itinéraire d'Hélène Frédéric depuis Québec et Montréal. C'est quand même une langue qui a une apparence très classique, très respectueuse, et puis parfois, alors c'est aussi lié à la présence de l'argot, mais pas seulement. Ouais. Il y a des formulations. Là, j'ai pas le temps de citer.
Un quartier pas encore gentrifié et encore poème.
Voilà.
Par exemple.
Typiquement, on tombe sur des choses dont on voit bien aussi que c'est bien une langue entre deux, qui est à la fois dans la langue dominante, le français de France, et puis aussi une autre pratique de français. Donc c'est assez du français, donc c'est assez réjouissant. Vraiment, il y a une originalité, mais qui est à bas bruit. Hein. Elle a cette phrase aussi qui est de dire que les plus grands rebelles sont pas forcément les plus bruyants, et c'est exactement ce qu'elle fait dans ce livre.
Lézarde, pardon, de la romancière québécoise Hélène Frédéric, paru chez Vertical. Et c'est l'heure du coup de cœur de Pierre Benetti aujourd'hui pour La joie de l'ennemi de Julien Delmer.
Oui, je voulais vous parler de ce roman qui est paru fin août, non seulement parce qu'on l'a pas forcément repéré parmi les centaines de sorties puis les prix de l'automne récemment, mais surtout parce qu'il raconte une histoire qui, j'ai le sentiment, nous concerne toutes et tous, bien qu'elle se passe dans un espace assez lointain, puisque c'est un livre qui est inspiré de la vie d'un chanteur de country, Townes Van Zandt, j'espère que je le dis bien, qui a fini dans la misère et ne sera jamais reconnu pour son art dans les années, on va dire, 50. Vous connaissez peut-être sa chanson Kathleen. C'est un roman qui se déroule donc dans ces années 50, dans le sud états-unien, mais ce n'est pas non plus un roman biographique ni à l'américaine, puisque Julien Delmer, donc, qui est aussi connu pour de la poésie, pour du théâtre et pour une dizaine de livres, va s'inspirer de cette vie pour construire un vrai personnage, Jeffrey, un cow-boy blanc à la guitare polytoxicomane et alcoolique. Et le roman va raconter son errance hallucinée dans ces paysages naturels du sud des États-Unis, au cours de laquelle cette errance, Jeffrey va essayer de reconstituer son histoire et notamment la question de sa violence
Puisque Jeffrey, il est extrêmement violent envers les autres, envers les femmes en particulier, envers la compagne qu'il a eue, Kathleen, donc qui a donné la chanson, les animaux également, les chevaux. Il y a toute une histoire de cheval assez magnifique dans ce roman. Et j'ai eu l'impression que, en fait, face à la violence d'un homme et dans une société quand même où elle pose de plus en plus questions et questions aussi à la littérature, Julien Delmerre, il verse pas dans la justification, mais il a une sorte d'indulgence profonde pour son personnage et une vraie empathie. Et je me suis dit en lisant ce livre que les romanciers doivent peut-être comprendre leurs personnages pour les faire vivre. Et nous avons nous-mêmes besoin de personnages de romans pour comprendre la violence des hommes violents, mais aussi la violence de la société où ces hommes vivent. Alors de cet homme très repoussant, il fait un personnage bouleversant. Il lui redonne une vraie histoire et Julien Delmerre va en particulier insister sur tout un nombre de violences subies au cours de cette vie et une violence qui forme l'unique monde de cet homme. Et aussi son unique moyen d'expression. Donc, par exemple, Jeffrey, c'est un enfant qui a subi des séances d'insulinothérapie. Ça, je connaissais absolument pas les effets sur la mémoire, notamment de ces séances. Et c'est quelqu'un qui retourne sa violence sur lui-même par la drogue et par l'alcool. Alors, tout ça, c'est dans une langue somptueuse, très variée. Julien Delmerre évite toujours d'en faire un monstre ou un pur symbole politique. Il en fait une très forte figure de la masculinité désarmante, puisque c'est un personnage qui fait face à sa propre violence et à sa propre société. Et j'ai eu le sentiment en lisant que finalement on pourrait tout à fait raconter ça au-delà des États-Unis et du Sud américain.
La joie de l'ennemi de Julien Delmerre, paru aux éditions Grasset.